Hello and welcome back.
Bonjour. Re-bienvenue.
Thank you. Welcome. My name is Elaine.
Merci, bienvenue. Je m'appelle Elaine Dussac. Je suis avec ma collègue Annie Chabry qui est avec moi et nous allons animer le reste de la séance de ce matin pour les deux prochaines séances, n'est-ce pas? Alors, tout d'abord, nous aimerions dire merci à Mark. Merci pour sa présentation dynamique et fort intéressante et qui nous amène tout à fait dans ce qui suit. Nous allons vous présenter deux autres experts, Dr. Sean Clark et Dr. Sacha Dubrovsky, qui sont ici à la table avec nous. Suite à ces présentations, nous allons demander aux membres de l'auditoire de participer dans nos discussions avec les panélistes. Nous accueillerons les questions, les commentaires, ainsi que vos propres anecdotes et histoires qu'on vous encourage à partager avec nous. C'est maintenant mon grand honneur de vous présenter un de nos tout nouveaux membres de la faculté, Dr. Sean Clark. Sean, évidemment, est un joueur précieux. Il est un communicateur efficace et il a une personnalité très engageante avec un sens de l'humour très particulier et positif. Je vais vous en parler un petit peu de sa biographie. C'est toute une biographie, hein? C'est quelque chose. Il a tellement d'expérience, une histoire intéressante dans le domaine des soins infirmiers, et il a travaillé sur tant de projets intéressants. Alors, soyez patients, j'ai bien dit que j'allais tenter de souligner vraiment ce qu'il y avait de mieux. Le 1er juillet 2012, Sean Clark a été nommé à la chaire de recherche Susan E. French en soins infirmiers et pratiques innovatrices de l'École des sciences infirmières de l'Université McGill à Montréal. Il est le premier directeur du McGill Nursing Collaborative for Education and Innovation in Patient and Family-Centered Care de l'École et des hôpitaux d'enseignement universitaire affiliés à McGill. Ça, c'était quelque chose, hein? Pas facile à dire. En 2008, Sean Clark est devenu le premier titulaire de la chaire de recherche infirmière RBC en soins cardiovasculaires de l'Université de Toronto et des hôpitaux du réseau universitaire de santé. Et entre 2010 et 2012, il fut également directeur intérimaire de l'Université de recherche sur les services de santé en soins et infirmiers, site de l'Université de Toronto, fondée par le ministère de la Santé et des soins de longue durée. Et ses recherches portent d'ailleurs principalement sur les aspects organisationnels des soins hospitaliers. Et il est bien connu pour ses articles et ses projets sur les facteurs liés au milieu de travail, les niveaux de dotation en personnel, les résultats pour les patients et les questions de santé au travail pour les travailleurs de la santé qui sont particulièrement bien connus. Sean a enseigné les programmes de premier et deuxième cycle en soins infirmiers pendant plus de 15 ans dans plusieurs universités du Canada et aux États-Unis. Il a passé une bonne partie de ses années à assurer la direction des cours sur la question professionnelle et la politique sanitaire destinée aux étudiants sortant avec leur inscription à l'ordre. Il a le titre de Fellow de l'American Academy of Nursing. Il est professeur auxiliaire de l'Université de Montréal et l'Université de Hong Kong et il est invité par des universités, des hôpitaux et des organisations dans le monde entier comme consultant et conférencier. Sincèrement, j'aimerais donc l'accueillir, ce Dr. Sean Clark. Très bien. Suis-je allumé? Oui, vous m'entendez? Tout va bien? Oui, très bien. Super. Plus fort peut-être? OK. Voilà, tout va bien. Non, c'est bon. Voilà, de lever le micro, de m'approcher du micro. Donc, je parle avec les deux, finalement. Bon. Ah. Ah. Bon. Bon, bon. C'est pas mal fort, me semble. Bonjour tout le monde. Ah, voilà que le volume a baissé. Ça va bien? Vous m'entendez? Je ne veux pas aller trop loin sans... voilà. Il faut qu'on m'entende, mais je sens qu'il y a des hausses et des baisses de volume. Bon, et voilà, je continue et ça va se faire tout seul, n'est-ce pas? Moi, j'entends un changement. Bon, pour faire avancer mes clichés, je fais quoi? Je lève la main, on me donne la télécommande. Donc, super. Oui, il y a un technicien? Non? Bon, je vais tout de suite entamer ma présentation. Bonjour tout le monde, merci d'être ici. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous et donc de vous faire part de ma présentation, vous parler un peu de la littérature qui complémente les présentations de Mark et Sacha, je pense. Il n'y a aucun conflit d'intérêt ou de conflit financier. pour ce qui est du sujet dont il est question ce matin, quoique j'aimerais bien que les infirmiers et les médecins continuent à collaborer ensemble. Alors, ce que j'aimerais faire ce matin, c'est de vous parler du contexte historique du travail entre ces deux groupes, les infirmiers et infirmières, ainsi que les médecins, et un peu de recherche qui se fait. J'aimerais vous parler de ce qu'on sait sur les données empiriques et les facteurs qui ont un impact ou une incidence sur les communications entre les deux, infirmiers et médecins, et ensuite les résultats auprès des patients qui résultent de cette communication. Et je terminerai avec ce qui se dit dans la littérature et ce qu'on devrait faire pour améliorer le tout. On peut parler des cliniciens individuels et ce dont on devrait penser en termes de leur travail, et également parler de ce que nous devrions faire en termes d'éducation et la gestion de ces services en soins de santé. Très bien. Commençons un peu, comme je l'ai dit, par un contexte historique et par une citation. Je ne sais pas si vous êtes des adeptes de William Faulkner, évidemment un auteur très connu qui parle du sud des États-Unis. Alors ça, c'est une citation qui a été peut-être même galvaudée. Le passé n'est jamais mort. En fait, il n'est même pas passé. Très intéressant. Nous transigeons, surtout quand on pense à toute l'histoire riche de la province de Québec. On traite beaucoup de ce qui s'est passé après, hein, de notre passé, de ce qui vient après et de comment on a fait dans le passé, des agissements du passé. Et il est important, je pense, de ne pas oublier certaines choses. Et il faut parler de ce dont il est question aujourd'hui et qui découle de ce qui s'est passé hier. Pour vous donner un peu davantage de contexte, gardez à l'esprit que la situation à laquelle nous faisons face en termes d'infirmiers, infirmières, médecins et d'autres professionnels n'existe pas depuis toujours. Ça fait depuis seulement environ 150 ans qu'on voit l'organisation avec laquelle nous sommes aux prises aujourd'hui. Et il y a plusieurs éléments qui mènent à cette réalité. Voilà. Donc, la naissance des hôpitaux modernes et de la profession d'infirmier, Sue Nightingale, les avancées en médecine qui ont créé le besoin pour ces hôpitaux et d'autres soins à s'organiser tels qu'ils ont été organisés, et la professionnalisation de la médecine en tant que discipline à la fin du 19e et du début du 20e siècle sont à l'origine de l'ordre social des services en soins de santé tels que nous les connaissons aujourd'hui. Positif et négatif. Alors, lorsque j'étais à l'Université de la Pennsylvanie et je faisais du travail postdoctoral, j'ai eu la chance de partager un médecin et un corridor avec quelques historiens en soins infirmiers, Julie Ferrian, qui est très connue, une des historiennes des plus connues aux États-Unis. Et je lui ai posé la question. Je lui ai demandé est-ce qu'elle avait lu le livre dont le titre provocateur était Nursing Physician Control and the Medical Monopoly, Historical Perspectives on Gendered Inequality in Roles, Rights and Range of Practice. Alors, c'est un livre formidable. Beau cadeau de Noël pour tout médecin sur votre liste de cadeaux. Là. Si, et je lui ai posé la question, est-ce que vous l'avez lu? Et elle a dit, oui, je l'ai lu. Et je suis en train d'écrire une critique, justement, pour le National Association of Historians in Medicine. Et le titre de cette critique est « Not all nurses are good. Not all physicists are bad. » Alors, elle commence, justement, par partir un peu de la littérature. Et ceux qui rigolent savent de quoi je parle. Lorsqu'on lit ce que les historiens disent sur ce rapport entre infirmiers et médecins, il y a beaucoup d'exclusions et il est beaucoup question d'exclusion et de victimisation. Lorsqu'on parle de hiérarchie au sein des hôpitaux, et ce qui a toujours été le cas, les perspectives sur le mouvement au sein des praticiens aux États-Unis et dans d'autres pays, et elle dit qu'il est peut-être temps d'adopter un autre point de vue pour mieux concevoir de notre avenir. Elle dit qu'une un nombre grandissant d'infirmières et de médecins sont en mesure de négocier avec succès les limites. Dans ce cas-ci, l'interface entre le partage de l'autorité, la connaissance et les compétences que constituent les soins aux patients l'un envers l'autre et avec le groupe pour lequel ils œuvrent. Il est peut-être temps de changer, de faire glisser ce dialogue et de parler à un certain point de vue du passé, mais de tourner la page et de se tourner vers l'avenir. Alors, c'est une histoire de contexte. Et ce contexte, il faut le garder à l'esprit durant nos conversations. Du point de vue social, les infirmières et les médecins sont appelés à œuvrer ensemble sur des parcours éducationnels et de cas très différents. Si on prenait 10 000 enfants de 18 ans, on se penchait sur leur cas dans 20 ans, lesquels sont devenus des infirmiers et infirmières, lesquels sont devenus médecins, rien n'est hasard, lié au hasard. Et donc, ils doivent se retrouver, travailler côte à côte dans un environnement clinique et on a notre bagage personnel, évidemment. Alors, sans vouloir passer de jugement, mais en stipulant les choses telles qu'elles sont, la hiérarchie du point de vue historique est évidemment est une façon d'entretenir des relations interpersonnelles. Ça fait partie de la réalité. Et du point de vue historique, c'est ce qui se fait à travers les disciplines, que ce soit dans le contexte médical ou dans le contexte d'autres disciplines, autres contextes sociaux très importants. Aujourd'hui, la plupart des écrits par les deux professions donc est très exclusive et minimaliste. Lorsque les infirmières discutent, elles ne parlent pas tellement des médecins. Et lorsque les médecins parlent de ce qui se passe bien au sein de leur travail et ce pourquoi nous devrions être reconnaissants, etc., d'un seul coup, les infirmières, on en parle moins. Ils sont à l'arrière-plan, pas tellement discutés, ne font, comme par hasard, pas partie du soin de santé. C'est pas que dans les écrits, mais c'est comment la profession parle l'un de l'autre au public. Et on parle de nous comme étant la profession des soins, le cœur des soins de santé. On est à la défense des clients et des patients. Et évidemment, les clients, eux, se posent des questions. Si les médecins plutôt se posent des questions. Qui suis-je, moi? Si vous êtes au cœur des soins de la santé, eh bien, nous, qui sommes-nous, se posent-ils comme question. Nous savons que la communication entre les différents groupes de travail, entre les hôpitaux et même au sein des différentes disciplines, est souvent erronée, que ce soit l'établissement des enregistrements de ce qui se fait et toutes les décisions qui sont prises, on y reviendra. Parfois, notre profession, les soins infirmiers, on fait face à des difficultés même pour ce qui est de se comprendre en faisant appel à de la terminologie tout à fait ordinaire. Probablement, je vais vous faire rigoler quand je vais parler d'un dialogue ou un langage diagnostique qui parle de déficit du côlon, équilibre de fluide, etc. Et d'autres disciplines ont de la difficulté à comprendre ce dont il est question.
Le résultat de tous ces facteurs, c'est que quelquefois les membres de différentes spécialisations en médecine, en fait, se trouvent opposés les uns aux autres. Nous avons des cultures qui sont développées dans les différentes professions de la santé, qui sont maintenues par l'éducation, malgré tous les efforts faits par les gens de McGill et dans d'autres universités à l'échelle mondiale, que travailler avec les infirmières, c'est absent dans l'éducation des médecins. Il y a des efforts qui sont faits. Je peux vous dire, comme Hélène l'a dit, on parle de questions professionnelles dans les écoles de soins infirmiers. Je parle à mes collègues qui enseignent en soins infirmiers. Mais lorsqu'il s'agit de travailler avec les médecins, c'est très peu enseigné, en fait, en soins infirmiers. Finalement, les gens racontent toujours des histoires négatives qui expriment toujours, en fait, les mêmes points de vue négatifs vis-à-vis des médecins. Ah non, on n'apprend pas aux gens comment gérer les conflits, surtout les étudiants et les gens tôt dans leur carrière ont probablement besoin de cela, que ce soit des étudiants en médecine ou étudiants en nursing. Et en grande partie, les gens comme vous qui venez de telles conférences, de façon générale, nous n'arrivons pas à nous comprendre dans nos vies professionnelles, ceux qui débouchent sur des obstacles. Historiquement, les infirmières ont toujours été employées des agences et fonctionnent dans un certain cadre. Bien sûr, historiquement, les médecins ont été des contracteurs indépendants et utilisaient les établissements ou les hôpitaux comme leur propre atelier. Et ça change avec le temps, mais ça influence la façon dont les gens parlent et perçoivent leur travail. Alors, les deux viennent de cultures très différentes. Les non-médecins où les leaders, en fait, des soins infirmiers puis les leaders des médecins parlent de tribus. Et on peut parler de tribus même en soins infirmiers, entre médecins, entre différentes spécialités, médecine interne, pédiatrie, etc. Et lorsqu'on parle des soins de santé aujourd'hui, il y a tellement de pression qui s'exerce sur le système. Il s'agit d'organisations très complexes où de nombreux départements, de nombreuses disciplines se retrouvent ensemble. Alors que nous pensons à la façon de vouloir travailler mieux en équipe avec les médecins, il faut voir quels sont les meilleurs soins pour les patients, les soins les plus efficaces. On pose la question, quels sont les facteurs qui influencent le travail d'équipe? Il faut se demander, en fait, en quoi consiste le travail d'équipe et en quoi est-ce que le travail d'équipe est différent ou similaire des relations, des liens lorsqu'on interagit les uns avec les autres et toute cette notion de collaboration. J'aime l'idée, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà lu avant ce sujet, ceux qui lisent la littérature sur les organisations d'entreprise. Mais Jody Kittel de Brandeis University au Massachusetts a écrit d'excellents travaux au fil des ans quant au travail d'équipe dans l'entreprise pour faire des choses comme, par exemple, faire décoller un avion avec tous les passagers et les bagages chargés dans la soute de façon à ce que l'avion parte à temps. Elle a beaucoup parlé de la recherche sur les soins infirmiers. Je vais y revenir plus tard. Elle parle de la communication au sein d'un groupe, d'employés qui peut être faire un travail plus efficace si les gens, en fait, essaient de communiquer de façon à résoudre les problèmes. Elle parle d'objectifs partagés, de connaissances partagées, de respect mutuel. Et il faut regarder si une équipe travaille bien ensemble, est efficace en mesurant, en fait, l'interaction que les gens ont les uns avec les autres. Et ça englobe, évidemment, les relations infirmières-médecins. On parle d'équipe, on peut revenir à des définitions classiques qui ne s'appliquent pas nécessairement aux soins de santé, mais de façon générale, une équipe définit les problèmes, établit ses objectifs, collecte l'information lorsque nécessaire, résout les problèmes, va chercher des opinions, fait un tri à travers ses opinions et essaie, en fait, d'assigner les responsabilités à tout un chacun. Ce qui est très important, si vous lisez la littérature spécialisée en soins de santé, c'est que les infirmières et les médecins ne semblent pas s'entendre sur, en fait, ce qu'on entend par le travail d'équipe. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie faire tout ça? Alors, ça peut être un problème, en fin de compte. Un exemple, une étude faite par Starcreeves et ses collègues internationaux au Canada, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud parle du travail d'équipe se fondant, en fait, sur les enjeux et les réunions informelles des équipes qui sont mises en place. En fait, c'est un peu comme des bateaux qui se rencontrent dans la nuit. En fait, très souvent, les réunions sont anecdotiques, elles sont brèves. Presque toutes les interactions portaient sur la question des ordres ou des prescriptions. Et un autre groupe veut avoir plus de consignes pour faire avancer les choses. Et dans cette étude, lorsqu'on a examiné les réunions des équipes, de façon générale, les médecins y assistaient peu ou, en fait, lorsqu'ils y étaient, c'est eux qui parlaient. Alors, Marlene Kramer, qui est un nom que vous connaissez certainement parce que c'est une sociologue des soins de santé. Elle a fait beaucoup de travail intéressant sur les soins de santé. Elle a rédigé le travail classique sur la façon dont les étudiantes infirmières font la transition entre les études et les études, en fait, et le travail pratique dans les hôpitaux. Et elle et sa collègue Claudia Schwellenberg ont écrit plusieurs articles sur la question pour essayer d'analyser de quoi peuvent avoir l'air les relations avec les médecins. Et elles ont prévu une classification, en fait, qui passe de relations collégiales, caractérisées par le pouvoir, le respect, confiance mutuelle, relations collaboratives où il y a de l'égalité, et il y a ensuite un autre groupe où il y en a qui agissent comme des professeurs et d'autres comme les étudiants. Jusqu'à l'approche, en fait, où les gens sont peut-être polis, mais ne sont pas nécessairement chaleureux. Jusqu'à des relations hostiles qui sont marquées par la colère, les abus verbaux, les menaces réelles ou sous-entendues, ou par la résignation. Alors, ce sont des chiffres ici de sondages auprès de plus de 10 000 infirmières. Et les hôpitaux, sur les hôpitaux magnets, vous connaissez les hôpitaux magnets, peut-être ce sont des hôpitaux qui voulaient devenir des aimants à un moment donné pour devenir des hôpitaux ou des établissements de santé de référence. Si vous regardez les cinq types, on a divisé l'enseignement entre, ici, on voit que de façon générale, ces infirmières rapportent à 70 ou 80% que les relations avec les médecins sont des relations de collaborative. Mais on voit bon nombre d'infirmières qui disent que les interactions style poli existent aussi beaucoup. Il y en a de 10 à 20% qui disent que les relations sont vraiment adversariales ou sont hostiles avec les médecins. N'oubliez pas, ce 10 à 20% est important. Alors, je pense qu'il nous faut établir une différence entre les relations positives et polies, l'idée de respect, je vais y revenir, et l'idée du travail d'équipe. Et je pourrais vous montrer des diapositives pendant une demi-heure qui vous montreraient essentiellement que les infirmières sont heureuses dans des établissements où elles estiment que leurs relations sont positives avec les médecins. C'est logique, c'est évident qu'à ce moment-là, leur taux de satisfaction est plus élevé, moins de burn-out, mais en fait, cette relation entre les médecins et les infirmières, ce n'est pas la seule caractéristique qui est importante pour les infirmières. Ça fait partie d'une grappe de choses, d'un groupe de choses. Une autre idée à laquelle je vais revenir. Et nous avons tendance à voir que ceci ne va pas dans l'autre sens par rapport à ce que les médecins rapportent. C'est qu'eux sont satisfaits lorsqu'ils travaillent bien, en fait, avec les infirmières. Et on oublie souvent ça. Voici quelques résultats du sondage. Lorsque j'étais à l'Université de Pennsylvanie et que nous avons fait des sondages auprès de trois États, vous voyez ici que les trois États ont répondu à peu près de la même façon, en fait. Mais les réponses sont très éclairantes. Alors, les infirmières et les médecins ont de bonnes relations. Environ 80% des infirmières. Bon, donc 80% du temps, les infirmières donc et les médecins ont de bonnes relations. Bon, les médecins, par exemple, tiennent en haute estime les infirmières. Environ 50% lorsque la question est posée aux médecins. Différentes questions, différentes réponses. Et soyez un petit peu critiques ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les infirmières ne se sentent pas respectées par les médecins? Est-ce que c'est parce que le comportement des médecins n'est pas le bon? Avant de conclure que ce sont les médecins qui ne sont pas assez respectueux des infirmières, il faut prendre un peu de recul. Maintenant, qu'en est-il des aspects négatifs? C'est-à-dire que 10 à 20% des infirmières disent que les relations sont négatives. Bon, Lynn Rosenstein, avec ses collègues sur la côte ouest des États-Unis, ont fait de la recherche qui est encore très citée lorsqu'on parle de conflits entre les infirmières et les médecins. Le travail dans le système Kaiser Permanente sur la côte ouest des États-Unis. Environ 50% des médecins ont dit qu'ils avaient vu de mauvaises relations entre les médecins et les infirmières et que c'était 80% du côté des infirmières. Je n'ai pas mis ça sur une diapositive, mais c'est intéressant. Les médecins ont dit que 50% des médecins étaient abusifs. Les infirmières avaient dit qu'au moins une fois dans leur carrière, elles avaient vu ceci et que 60% avaient vu la même chose. Et les administrateurs de santé, qui n'étaient ni infirmières ni médecins, ont dit que 75% des infirmières et des médecins avaient eu des comportements abusifs. Est-ce que c'est courant? Pas vraiment courant. Environ 80% estiment que moins de 5% des infirmières et des médecins étaient impliqués. Environ 50% ont dit que un tel comportement se produisait moins d'une fois par mois. Et 90% ont dit que une mauvaise relation pouvait donner de mauvais résultats sur les patients. Et 17% étaient conscients d'événements négatifs réels et 70% de ceux-ci auraient pu être évités. Une autre étude, il faut faire attention avec cette étude parce que ça, c'était une étude ou une enquête faite sur l'Internet bon, pour essayer d'aller chercher les préjugés et les échantillons. Alors, c'est l'Institut pour des pratiques sécuritaires avec les médicaments, donc toujours aux États-Unis. Alors, il y a des infirmières... en 2003, donc, on a approché plus de 2000 infirmières. Alors, les participants, les infirmiers, environ 75%, pharmaciens, administrateurs. Alors, on leur posait des questions, ce qui est très prescription. Et en fait, l'éventail des questions était très large. On a parlé de ton condescendant de la part des médecins, incapable de répondre aux questions des infirmières, refusait, par exemple, de répondre au téléphone cellulaire, où il se détournait lorsqu'il voyait l'infirmière, ou... par exemple, et mauvais langage corporel, etc. Environ 70% des non-médecins ont dit qu'ils avaient eu ce problème dans leur pratique à un moment donné. 57% ont dit que 3 individus ou plus qui se comportaient de cette façon. La moitié ont dit qu'ils se sentaient sous pression pour accepter une prescription qui les préoccupait. Et 49% ont ressenti une pression pour l'acceptation d'une prescription pour laquelle ils avaient des inquiétudes et 7% ont rapporté avoir été impliqués dans des erreurs de médicaments causées par des prescriptions douteuses ayant été réalisées suite à l'intimidation. De façon générale, les relations entre médecins et infirmières, sont en général positives et un travail d'équipe peu structuré semble être une réalité dans le milieu hospitalier. Cependant, tout n'est pas rose. Des rapports parallèles amicaux entre étrangers semblent être omniprésents et il semble y avoir un écart entre les attentes entre médecins et infirmiers et ce que l'on voit dans la littérature qualitative. Il y a aussi ce paradoxe des indications pour les précurseurs favorables et défavorables pour le fonctionnement de l'équipe. 90% bons et 10% mauvais. Donc, 10% rapportent qu'il y a des choses mauvaises qui se passent. Et lorsque c'est le mauvais moment, ça peut être un très mauvais moment. Les collègues des États-Unis ont rapporté que pratiquement toute personne dans l'enquête pouvait nommer une infirmière dans leur hôpital qui avait dû quitter son métier à cause d'une mauvaise relation avec les médecins. Alors, qu'est-ce qui influence le travail d'équipe entre médecins et infirmières? Qu'est-ce qu'on entend par travail d'équipe? J'en ai déjà parlé. Alors, je plaisante à moitié ici. Ça a rapport avec la volonté de participer avec les membres de l'autre discipline, de toute évidence, éviter des comportements abusifs. Et ceci vise aussi à créer un climat propice pour les gens puissent poser des questions et que les gens puissent évacuer aussi. Maintenant, parlons des résultats qu'on voit dans la littérature spécialisée. Alors, qu'est-ce qu'on voit donc pour ce qui est des résultats des patients? Une étude que plusieurs d'entre vous, en tout cas les gens de ma génération, en ont entendu parler, une étude réalisée par M. Nance et ses collègues, où on a parlé en fait du comportement des médecins, relation avec les infirmières. Alors, 5030 patients ont fait l'objet de cette enquête dans 13 établissements de soins palliatifs. L'interaction et la coordination des soins critiques vers les employés apparaissait plus importante que la technologie, la structure administrative ou le statut d'enseignant en prenant en compte les différences quant au risque ajusté de mortalité. Alors, c'était en fait une étude très exploratoire, très qualitative, où les résultats, en fait, ne sont pas coulés dans le béton, mais elles restent fascinantes. Alors, une autre étude qui a été faite à l'Université de Pennsylvanie, ça a été menée par Dr. Linda Aiken. On a publié un certain nombre d'articles qui parlaient de risques de mortalité chez des patients qui avaient subi en fait des opérations, quelles qu'elles soient, cardiovasculaires, etc., de toute évidence. Donc, ils pouvaient faire face à la mortalité, mais pas nécessairement. Patients âgés de 20 à 85 ans, on a examiné plus de 3 000 résultats chez les patients. Je connais très bien ce chiffre. Ils ont été traités dans 170 hôpitaux. 2% sont morts 2 jours après l'admission. On a compté le nombre de patients qui sont morts après avoir eu leur congé de l'hôpital et de complications, embolie pulmonaire, etc. On a publié un article qui établissait un lien entre les taux de survie des patients 30 jours après avoir été admis à l'hôpital. Et il y avait une grande différence entre les hôpitaux où la charge de travail était de 4 par infirmière par rapport à d'autres où il était plus élevé. Ensuite, on a ajouté à la combinaison quel pourcentage des infirmières autorisées avaient un baccalauréat par rapport à celles qui ne l'avaient pas. Ceci aussi est un facteur qui avait un rôle à jouer. Parce que dans le livre Hearts of Arts de Dr. Aikens, elle pensait que les patients étaient très importants, mais que les infirmières, en fait, étaient très importantes. On a commencé à regarder ce qui se passait du côté du travail réalisé dans les hôpitaux. Alors, Marlene Kramer a élaboré, en fait, écrit un travail. Oui, la même Marlene Kramer a été repris par le groupe Penn et a fait partie, en fait, du Skill Index. On a posé des patients aux questions. On a demandé aux infirmières, est-ce que les infirmières ont un rôle important à jouer au niveau exécutif dans votre établissement, et ainsi de suite. Il y a une échelle qui s'appelle la relation collégiale entre médecins et infirmières. Vous allez voir que ces questions, en fait, plus une, celles reviennent à celles que je vous ai montrées plus tôt. Alors, on a essayé d'être prédictif pour ce qui est des relations infirmières-médecins, plus on a vu que c'était un groupe de facteurs qui entrent en jeu. On a développé, on a fait une division de 168 établissements pour voir s'ils étaient au-dessus ou en deçà de la moyenne sur toutes ces choses-là. Il me reste que 5 minutes. Bon. Et on s'est rendu compte que les meilleurs hôpitaux, ceux qui sont donc dans la partie supérieure gauche, là, les patients dans cet hôpital avaient 40% moins de probabilité de mourir que les patients d'autres hôpitaux. Carl Easterbrooks aussi a fait une étude. Si vous regardez ici ce qui se passe au bas, que les relations entre les infirmières et les médecins, on voit une échelle similaire à celle que je viens de vous présenter, se rapportait à une diminution de 28%, en fait, même après un mélange de compétences, c'est-à-dire l'infirmière autorisée qui avait eu leur baccalauréat et celle qui ne l'avait pas, enfin, infirmière temporaire, etc. Maintenant, l'analyse des origines en profondeur. 3548 événements sentinelles rapportés à la Commission américaine entre janvier 1995 et décembre 2005. Personne ne peut voir l'écran. 70 % des événements étaient dus à des erreurs de médicaments et, en fait, et ceci était dû à des retards de traitement, opérations sur les mauvais membres et mauvaises relations entre infirmières et médecins. Ça, c'est une étude qui a été faite, c'est une étude doctorale qui a été supervisée par M. Johnson, Michael Latimer, qui est maintenant sur la côte Est. C'est une étude d'infirmières qui travaillait donc en néonatalité, savoir si elles avaient utilisé, en fait, de la gestion de douleurs fondée sur des conclusions probantes. Pour la procédure, j'ai été co-auteur de cet article. Collaboration entre médecins et infirmières ont été c'est un facteur qui a été grandement mentionné. Alors, coordination relationnelle, alors 900 patients au travers de plusieurs hôpitaux. Alors, les médecins ergothérapeutes reliés à la satisfaction des infirmières et même, en fait, alors, la coordination relationnelle, donc une application clinique avec des patients ayant reçu un remplacement total du genou et de la hanche, 870 patients dans 9 hôpitaux. Je vais sauter cela, mais les organisations, les infirmières, en fait, se sont impliquées dans l'amélioration de la qualité, etc. Alors, les défis dans ce domaine de recherche, faut mesurer la collaboration avec les médecins, il faut mesurer aussi les résultats avec les patients qui sont reliés aux pratiques des soins infirmiers ou au processus de collaboration. Ça n'est pas si facile que ça en a l'air. Pour ma part, je ne suis pas certain si nous devrions continuer de chercher des preuves d'une relation de laquelle nous savons tous qu'elle est là, ou s'il s'agit de savoir s'il faudrait aller au-delà de cette recherche corrélationnelle croisée et essayer d'utiliser à la place toutes les occasions que nous avons, les interventions comme celle-ci, comme cette conférence, essayer de retracer ce qui se passe pour ce qui est des attitudes des gens, mais aussi du point de vue de leur pratique, de leur comportement dans leur pratique et pour ce qui est des résultats pour les patients. Alors, comment est-ce que la recherche sur les interventions peut augmenter notre compréhension? Il y a très peu de données là-dessus, mais il y a des gens qui, depuis des décennies, essaient de faire travailler les infirmières et les médecins ensemble. Il y a des données très limitées de l'impact des interventions faites en travail d'équipe sur les soins et les résultats pour les patients. C'est quelque chose de très intéressant et c'est surtout parce que nous avons des résultats très compliqués pour les patients. La durabilité des changements sur les comportements des infirmières et des médecins est plutôt décevante. Et dans plusieurs cas, en fait, elle a été non seulement décevante, mais inconnue. Et il y a un manque de base théorique qui pose souvent des problèmes pour les études individuelles et la littérature. Alors, plusieurs interventions, cependant, comme nous le savons, semblent planifiées de façon incomplète et ne reçoivent pas l'appui des acteurs importants. L'avenir de la recherche, je pense qu'il nous faut commencer à regarder les conséquences de travail d'équipe positif ou négatif et l'évaluation des interventions doit inclure des procédés, des outils de mesure, des résultats plus sophistiqués. On doit porter plus d'attention aux résultats positifs et négatifs des soins. Bon, par exemple, s'il y a un patient qui meurt, qui n'aurait pas dû mourir parce que la communication a été trop mauvaise, il nous faut aussi arrêter de nous concentrer seulement sur les résultats négatifs. Il faut commencer à regarder quels sont les résultats positifs et essayer de voir quels résultats positifs pourraient être améliorés. Des résultats positifs, par exemple, nous pourrions obtenir plus souvent si on améliorait nos relations avec, si la relation entre médecins et infirmières était meilleure. Qu'est-ce qui va bien, en fait, par exemple, du côté de la santé mentale, par exemple, quels résultats positifs potentiels sont moins probables lorsque le travail d'équipe entre infirmiers et médecins est sous-optimal? Bon, pour revenir donc à ce que je viens de dire, qu'est-ce qu'on peut conclure? Le travail d'équipe, je reviens à la définition, les gens qui travaillent ensemble, qui parlent ensemble. Bon, et quand on parle de collaboration, oui, les gens travaillent bien ensemble. Est-ce qu'il est temps maintenant de s'écarter de la façon dont les gens estiment en quoi pensent de cette interaction, ou est-ce que c'est naïf parce que les sentiments sont très importants étant donné l'historique? Pour nous, en tant que médecins, je pense qu'il nous faut vraiment poser une question qui vient de l'expérience accumulée. Quelles préjudice est-ce que j'apporte dans mes interactions avec l'autre discipline? Moi, je me suis éloignée des expériences personnelles, mais je dois dire que mes amis médecins disent quelquefois qu'est-ce qui se passe avec le haut niveau d'anxiété et pourquoi est-ce que les infirmières ont de telles réactions dans mon hôpital? Et je pense qu'il faut commencer à se poser la question. Est-ce qu'il se peut que je demande des choses déraisonnables par rapport aux échanges? Du côté des médecins, lorsque les gens sont en colère ou deviennent abusifs, c'est parce qu'ils sont sur la défensive, ils se sentent menacés et sentent que leurs patients ne seront pas bien soignés, à moins que on organise une émeute ou si on pense où on pense que les gens veulent protéger leur territoire, est-ce que ces menaces sont réelles? Je reviens à la question. Que sais-je? On se comprend pas bien. Il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'on sait les uns des autres quant à la formation des uns des autres? Comment plus en apprendre sur les gens avec lesquels je travaille? Quels pourraient être les avantages à ce moment-là du point de vue du résultat aux patients? Du point de vue de prodiguer de meilleurs soins patients. Il y a beaucoup de choses qui sont sur le site web. Il y a beaucoup de répercussions qui viennent de cette littérature. Les gens, on sait, il s'agit de faire en sorte qu'il y ait des programmes pour que les comportements changent entre les infirmières et les médecins, pour que les relations s'améliorent. Le travail d'équipe est extrêmement important. C'est évident que vous savez que c'est important. Il faut penser à ces questions, cette définition de travail d'équipe et la question, en fait, de la sécurité pour le patient. Les soins de santé changent très rapidement, comme nous le savons tous et toutes. Les contraintes budgétaires auxquelles nous nous heurtons sont là. Les contraintes démographiques sont réelles. Il faut absolument réfléchir à tout ça parce que nous n'avons pas de temps à perdre, ni d'énergie à perdre. Il faut aussi que éviter que les professionnels de santé tombent en burn-out. Les priorités sont destinées à changer. Je peux vous dire que si on regarde ce qui se passe dans les hôpitaux, les infirmières, les médecins, les administrateurs des hôpitaux en ont marre d'entendre les querelles entre les deux. Ils disent « Organisez-vous vous-même, assurez-vous que vous prodiguez de bons soins à vos patients ». Tout dans ces recherches et en fait, le message que je voudrais vous laisser ici, c'est que c'est compliqué tout ça. Il n'y a rien dans la littérature spécialisée qui offre des solutions simples. Il faut essayer en fait plusieurs choses, plusieurs expérimentations. Considérant cela, et Kathleen va en parler cet après-midi, comment pouvons-nous digérer les aspects historiques, sociaux et les réalités organisationnelles de notre travail ensemble et offrir de nouveaux outils à la relation entre nos deux disciplines pour l'avenir des soins de santé?